Même un café imaginaire peut prendre du temps. Et nous allons donc commencer la seconde session. Je vous informe d'abord d'un point d'organisation. Donc le professeur Deshpande ne pourra pas, pour des raisons personnelles, lire sa communication ici. Et le professeur Jan Huben a très gentiment accepté de la lire à sa place. Voilà. Et nous allons maintenant donner la parole au professeur Edwin Gero du Reed College de Portland, évidemment que vous connaissez tous, qui nous parlera des acceptions de Karman et des traditions grammaticales sanskrites. Professeur.
Merci, messieurs et messieurs, dames. Je vais commencer par reposer la question angoissée qu'Arjuna avait posée à Krishna au cours de leur longue conversation. Kim karma, kim akarma? Qu'est-ce que c'est que l'action? Qu'est-ce que c'est que l'inaction? Même les sages s'y égarent, Kavayopi et Atra Mohita. Lancer dans ces grandes lignes la réponse du Dieu, couchée en termes plutôt delphiques, parmi les plusieurs types d'actions, la seule qu'il convient aux guerriers de cultiver, c'est l'action désintéressée, celle qui ne tient aucun compte de l'intérêt de l'agent. Pour étayer cette thèse paradoxale, en ce qu'elle semble confondre les volets opposés de la question initiale, l'action et l'inaction, Krishna a recours à quelques vérités tirées de la psychologie bouddhique, notamment concernant le rôle du désir, karma, qui lie l'acteur à son acte. Mais aussi, de façon plus cruciale, il se réfère à d'autres vérités tirées de la longue tradition de spéculation purement indienne concernant les modalités de l'acte par excellence, l'acte sacrificiel, le rite brahmanique, lui aussi karman. L'on sait que ceux qui ont réfléchi sur le rite, notamment les Mimamsaka, soucieux des critiques qui avaient remis en question l'efficacité de tel rite, ont distingué trois types d'activités rituelles. D'abord, l'acte nitya, perpétuel et sans occasion. Puis l'acte naimitika, occasionnel. Ensuite, l'acte kamya, qui procède d'un désir, d'un souhait, bref, volontaire. À retenir est le rôle joué par la conséquence de l'acte dans la distinction entre ces trois types d'activités. Pour l'acte kamya, évidemment, c'est la conséquence qui est primordiale. C'est pour cela que l'on entreprend le rite, que ce soit la naissance d'un fils ou la conquête du monde. L'acte naimitika n'est pas dépourvu de conséquences, mais c'est son occasion qui en détermine l'exécution, par la volonté de l'agent, que ce soit l'introduction du jeune homme à la vie d'étudiant ou la consécration d'un roi. Mais c'est le troisième type qui caractérise le rite brahmanique en son essence, l'acte qui n'a ni occasion ni conséquence, pour le sacrifiant du moins, mais dont l'exécution est pour lui obligatoire aussi longtemps qu'il en est capable, que ce soit les sacrifices de la nouvelle lune et de la pleine lune, ou le maintien des trois feux dans la maison. Évidemment, l'importance de ce dernier type ne peut être mise en cause. Cela revient à un devoir devant laquelle les préférences du sacrifiant ne jouent aucun rôle. Pour autant, ceux qui ont esquissé cette défense robuste de la vie rituelle n'étaient pas insensibles à la nature de l'action elle-même, qui devait inéluctablement porter ses fruits, qu'ils soient voulus ou non. Pour couper court à ce préambule, les Mimamsaka ont conclu à juste titre que les rites les plus importants n'avaient d'autre but que le maintien du dharma, principe à la fois cosmique et social. En exécutant le rite, le sacrifiant jouait un rôle semblable au Dieu, dont l'œuvre est le cosmos. le sacrifiant, en manque de but à titre mondain, se voit transformé en un dieu. Svarga kamo jyotishtomena yajeta. Celui qui désire l'immortalité exécutera le rite appelé le jyotishtoma. Le sacrifice particulier, le karman, auquel il s'est engagé, en est le moyen. Pas très loin, selon toute vraisemblance, de la conclusion où tend l'argumentation de Krishna. Arjuna ne doit s'assigner d'autre but que le maintien du système social, lui-même nitya, perpétuel, dans la défense et le devoir de tout guerrier, de son nom kshatriya, défenseur. Si besoin est, dit Krishna, et si tes actes impliquent des conséquences, même bénignes, tu peux me les imputer à moi qui suis le Dieu suprême, sinon le cosmos lui-même. La révélation qui est réservée au seul Arjuna dans la 11e lecture de la Gita, car le problème dont traite la Gita est la transformation de l'acte personnel en acte rituel. Dans toutes ces variations sur l'acte et son sens, il est à noter que les différents aspects de l'activité, l'on se plaît à distinguer, se confondent facilement. Le karman est à la fois l'acte, son résultat et sa motivation. L'acte occupe le centre d'attention aux dépenses de la volonté de l'agent jusqu'à ce que l'acte devienne devoir, devient l'acte qui n'a pas d'autre justification que son exécution. Les ritualistes ont esquissé une grammaire pour faciliter leur spéculation sur la nature de l'acte, une grammaire souvent en désaccord avec le système de Panini. En consonance avec leur revalorisation de l'acte par excellence comme le devoir, les ritualistes ont renversé la hiérarchie entre la racine, le dhatu, censé exprimer le sens du verbe, et ses affixes qui expriment les temps, les modes, etc. Pour eux, la désinence est surtout la désinence ling, l'optatif, par où s'exprime la bhavana, l'injonction à sacrifier, à préséance sur la racine, qui ne nous informe que du contenu de cette commande. Vous devez faire quoi? Vous devez faire un sacrifice. La racine devient en quelque sorte l'objet direct de l'injonction généralisée faite, qui, elle, devient la signification de toute désinence exprimant une commande. Le verbe karoti est alors à sous-entendre dans tout verbe, analysé de la façon suivante. « Que vous sacrifiez » devient « que vous fassiez un sacrifice ».« Yajeta » devient « yagam kuryat ». L'on notera que cette revalorisation de la forme verbale sans nier la place centrale qu'elle a dans l'expression tout entière, aura réaffirmé le yaga, le sacrifice, dans son rôle de karman par excellence. Mais au prix de confondre le karman avec le kartavya, le sacrifice à accomplir, en même temps, elle aura dévalorisé le rôle du sacrifiant, qui n'est que l'agent impersonnel du sacrifice nommé, que le rite lui confère un fruit à titre personnel ou non. Plus important, le verbe sous sa forme grammaticale correcte, yajeta, incorpore son objet déjà, à savoir le yaga, le sacrifice, l'objet direct de l'injonction faite. Ce détour chez les ritualistes nous permettra de voir le karman strictement grammatical sous un nouveau jour. Le statut de la racine en sort d'autant plus conforté. Les grammairiens, à partir de Panini lui-même, n'acceptent pas que la priorité syntaxique soit accordée à la désinence, mais à cela qui leur semble être à l'origine de toute la phrase, à savoir à la racine, autour de laquelle gravitent les autres éléments de l'expression. Pour les grammairiens aussi, le terme et la notion du karman font partie d'un complexe terminologique qui remonte à Panini lui-même, où figure la racine, kru, karoti, et plusieurs de ses dérivés, kriya, action, kartr, agent, karaka, cause, karana, instrument, et évidemment karman, objet. Pour Panini aussi, la notion de faire quelque chose semble se placer au centre des rapports qui constituent la syntaxe de la phrase. Pour y voir plus clair, citons la définition de karman proposée par Louis Renoux dans sa terminologie grammaticale. Objet transitif, nom technique défini, Panini 1.1.49, Cartor ipsitatamam, c'est-à-dire, selon Cayata ad locum, la rection notant ce que l'agent désire atteindre au premier chef au moyen de l'action verbale. Le karman est noté en principe par les désinences de l'accusatif, selon Panini 2, 3, 2, et éventuellement par d'autres formes, sous référence à anabilité, je ne peux pas entrer dans tout cela, et notamment par les affixes du passif, par exemple kriyate kataha, l'anas se fait. En sorte que l'expression karmani dans bhava karmanoho équivaut pratiquement à dans l'emploi passif. À la fin de son exposé, Renoux fait état du flou terminologique entourant le mot karman, qui peut signifier en plus action verbale, emploi mondain du mot, emploi métonymique pour kriya d'après Mahabhashya ad locum, acte en général, activité, Panini 4.4.63 et 120, glosé kriya par Cayata lui-même. Sans vraiment altérer le teneur de cette terminologie, les grammairiens plus récents, qui ont été marqués par l'œuvre de Bharter Hari, l'ont approfondi en ayant en tiré des conséquences qui font se rapprocher la tradition grammaticale des courants philosophiques indiens et en même temps posent les bases d'une véritable sémantique raisonnée qui dépasse de loin les besoins d'une simple exégèse du sanskrit. Ce sont surtout deux successeurs de Bhattoji Dikshita, début du XVIIe, à savoir Kanda Bhatta, XVIIe, et Nagesha Bhatta, Nagoji Bhatta, XVIIIe, qui ont donné sa cohérence à ce tournant nouveau de la grammaire, à tel point que la tradition grammaticale considère leurs œuvre comme son parachèvement. La notion de karman, à la fois grammaticale et cosmologique, est emblématique de cette évolution des idées. Comme le dhatu est au cours de la phrase, la grammaire est au cours de la sémantique et celle-ci au cours de la philosophie. Le Vakyapadiya de Bharter Hari constitue le lien essentiel entre la vieille et la nouvelle tradition grammaticale. C'est vers sa conception de la kriya verbale qu'il faut se tourner pour apprécier les développements ultérieurs. La kriya, activité, est le sens essentiel exprimé par le noyau verbal. Hari ne distingue pas nettement entre l'activité et la racine elle-même qui lui impose une forme sémantique, mais l'amalgame laisse entrevoir que pour lui la phrase se formait autour d'un noyau qui exprimait essentiellement une activité, une kriya. Pour Kandabhata et surtout pour Nagesha, en revanche, la racine, le dhatu, se distingue de la kriya, du moins dans le sens que celle-ci est opposée au nom qui exprime un état. Ainsi, la kriya devient elle-même synonyme du verbe, par opposition au nom. La racine, en revanche, le vrai dhatu, est le noyau et du verbe et du nom. Elle se compose de deux aspects inséparables, l'un verbal, l'autre nominal, à savoir, d'un côté, l'activité, le terme vyapara, rebaptisé en ce sens, devenu synonyme moins ambigu du mot kriya, exprimant le changement. De l'autre, l'objectif vers lequel se dirige l'activité, disons sa destination ou bien son résultat, le pala. L'on voit que cette conception du résultat est plus complète que celle à laquelle l'aphorisme de Panini fait penser, car n'importe quelle activité, qu'elle soit voulue ou non, comprend une direction, sinon un but. Citons Nagesha à propos de la signification de la racine. Il dit, ensuite, le sens de la racine sera examiné, ceci étant à l'origine de la phrase tout entière. À ce propos, nous disons que la racine exprime en principe, quant à son sens, une activité associée à un effort comportant un résultat. Ce qu'on signifie par résultat est une qualification se rapportant à une topique. Il utilise les termes prakarata et visheshyata. Visheshyata, donc, ce qui est apte à recevoir une qualification, une modification. Une qualification. Dans le sens de la racine fournit le contenu spécifique en vue de quelque chose dont la réalisation serait facilitée par l'activité exprimée par la racine, étant entendu que cette activité soit liée syntaxiquement à une désinence qui exprime le statut d'agent. Nagesha entend, en utilisant les termes qualification, modification et topique, que le rapport entre l'activité, le sens primordial de la racine, et le résultat vers quoi se dirige l'activité, soit en quelque sorte essentiel, ne relève pas de facteurs accidentels. En d'autres termes, il entend que le résultat soit impliqué dans la définition même de l'activité, comme un prédicat essentiel, certes, à définir le sujet auquel il est apposé. Le cas échéant, ce résultat sera soutenu à l'extérieur du verbe par un karman, un objet direct. On en parlera. Cette distinction fait penser à la notion de définition essentielle d'Aristote, celle qui relève d'une propriété dont la nature de l'entité en question dépend. L'homme est mieux défini, était peut-être mieux défini, comme homo sapiens, que comme bipède sans plume, quoique les deux différencient également l'homme d'autres espèces. Voici la définition de l'objet direct d'après Nagesha. La rection objet direct note l'objet à quoi on se réfère comme étant le soutien matériel du résultat signifié par le dit verbe, pourvu que ce résultat soit produit par l'activité qui est la signification principale du dit verbe. Il faut souligner que nous ne sommes pas encore sortis de l'enceinte de la racine, dont le sens essentiel est composé de ces deux aspects. Même la racine être, asti, comme nous le verrons. Or, la racine, pour ainsi dire, veut entrer en rapport avec le reste de l'expression. Ça veut dire que les deux aspects de la racine cherchent des soutiens à l'extérieur dans le monde des signifiés. Le volet activité regarde vers un agent, carte, le volet résultat vers un objet, un karman. Un exemple souvent mis en avant est fourni par la racine chid, coupé, chinnati. Le résultat de l'action de manipuler la hache, soutenue à l'extérieur par le bûcheron, est la scission, dvaidi bhava, soutenue à l'extérieur par la bûche. Parce que les deux entités à l'extérieur facilitent le sens inhérent de la racine, la liaison qui les met en rapport avec l'idée radicale s'appelle karaka, facteur causal, engendreur. Défini selon nous, réaction entre un nom et l'action verbale, régime casuel verbal. Plus précisément, nom dont la désinence note la relation existante entre ce qu'exprime le nom et ce qu'exprime le verbe. Mais proprement, karaka ne signifie rien de plus que ce qui fait effectuer l'action verbale, ce qui est efficient. C'est tiré aussi de la terminologie grammaticale. Selon Nagesha, le karaka est une, je cite, la réaction nominale est définie comme ce qui complète l'action exprimée par le verbe, tout simplement. Les karakas sont exprimés en sanskrit par des désinences qui s'attachent soit au nom, bûcheron, ou ils appellent des ka, soit à la racine même, en ce qui concerne les deux les plus importants, Carter et Karman, qui ont donc ainsi le pouvoir quasi miraculeux de transformer la racine en verbe, c'est-à-dire de la transformer en tête de phrase, car l'on sait dorénavant aussitôt ajouter le suffixe tip, comme karoti, enseigné à l'actif, kartari, que l'action verbale est, s'est dotée d'un agent, chinati, il coupe. Ou, en revanche, une fois ajouté le suffixe te, enseigné au passif, kriyate, l'on sait que l'action s'est dotée d'un objet sur lequel elle agit, chidyate, il est coupé. Les autres karakas ont alors l'opportunité de préciser davantage l'action verbale. Par quel moyen s'est-elle effectuée? Où a-t-elle eu lieu? Pour quelle raison? Etc. Notons en passant que ce modèle d'explication exclut le cas que nous appelons le génitif, qui n'entretient aucun rapport direct avec l'activité verbale. Il en résulte que le cas que nous appelons le nominatif n'a d'autre fonction que de spécifier qui, parmi tous les agents possibles, est ici l'agent indiqué en principe déjà par le suffixe verbal, ou quel, parmi tous les objets directs possibles, est ici l'objet direct visé, lui aussi déjà indiqué en principe. Ce modèle d'explication essentiellement syntaxique fonctionne admirablement bien pour les verbes dits transitifs, c'est-à-dire qui ont des karmans à l'extérieur, des objets directs. Mais les verbes dits intransitifs, contre toute apparence, s'expliquent aussi très bien, la différence ne concernant que le statut du pala, du résultat, qui fait déjà partie de la racine, comme déjà expliqué, Nagesha. La transitivité, en somme, désigne une activité dont le résultat est placé ailleurs qu'en l'activité. L'intransitivité, une activité dont le résultat occupe la même place que l'activité. Le pala, dont l'existence n'est pas à douter, n'a pas besoin toutefois de soutien extérieur, car il s'est déjà exprimé comme élément incontournable de l'action elle-même. Devadatta s'assoit, aste devadattaha, la posture, le résultat de son acte que Devadatta est en train d'adopter, ne se sépare de l'acte lui-même. Enfin, pour contrer des objections qui profitent du flou inévitable entre transitivité et intransitivité, Nagesha s'est contenté d'adopter une position formelle. Il dit, en vérité, le terme transitivité revient à désigner une activité mise en rapport avec un contenu quelconque, pourvu que celui-ci soit adoubé de la qualification objet direct, karman, en vertu d'une injonction grammaticale. L'intransitivité, par contre, se réfère à tout autre contenu auquel une telle référence grammaticale fait défaut. C'est-à-dire, et karman, ce que la grammaire enseigne comme étant karman, quelle que soit sa relation au résultat impliqué par la racine. La phrase impose ses propres règles sur le monde des signifiés. Plus intéressante encore quant au rôle du karman dans la grammaire indienne est la manière dont on l'utilise en expliquant les tournures comme asyate devadatena, il est assis par devadatta, quelque chose comme ça, intraduisible en langues occidentales, mais qui équivaut à l'expression à l'actif devadatta aste, devadatta s'assoit. Il s'agit d'une tournure apparemment contradictoire, à savoir mettre au passif un verbe intransitif, qui n'a pas d'objet, donc il n'y a pas de sujet. En bref, les grammairiennes indiennes ont conclu à la possibilité et jusqu'à la nécessité prégnante de telles constructions où la racine elle-même, ou mieux l'aspect incontournable de la racine, celui qui exprime l'activité, supplée à l'absence du karman extérieur. Ainsi, la racine devient-elle son propre objet. On ne l'appelle plus karman, ça serait peut-être trop osé, ce sujet caché dans le verbe lui-même. Il revient au terme bhava, état, de le signifier, un terme disponible car déjà employé pour expliquer certains suffixes nominaux, la plupart des suffixes nominaux, tels de grigne, etc. Bhava, donc le terme bhava est aussi un exemple. Quelle ingéniosité que d'emprunter ce même terme bhava pour désigner le sens de la racine, quand celle-ci fonctionne comme son propre objet. Ingéniosité mise à part ce qui en découle est un karman présenté sous un autre nom, le vyapara et le pala de la racine devenant indiscernables. Ce mélange intime de l'activité et son résultat n'est pas loin de ressusciter le sens du karman associé au début de la spéculation indienne, au rite, à la fois action et son objet. Évidemment, il ne s'agit plus d'un objet direct normal, mais d'un objet doté de la capacité de se mettre en mouvement. La coïncidence est frappante et l'on hésite à lui surimposer une explication causale, mais elle illustre au moins la convergence entre les aspects de la pensée indienne apparemment éloignés l'un de l'autre, et même le rôle central joué par la langue dans les spéculations indiennes. Ainsi peut-on voir le tournant philosophique de la grammaire entamé par Hari et développé en détail par ses successeurs, notamment Nagesha, comme le complément du système strict de Panini, qui en plus le complète en comblant une lacune souvent remarquée, et par le Renou lui-même, il dit « Il manque presque entièrement à la grammaire paninéenne une théorie de la phrase au sens où nous l'entendons, sans doute par suite de la simplicité de la structure indienne des phrases. » Mais le traitement approfondi des karakas et de leurs fonctions impliquant la quasi-totalité des topiques annexes n'a-t-il pas aussi fourni la base d'une véritable syntaxe de la langue sanscrite, entendue bien sûr à l'indienne? C'est la notion de prakriya, procédure, bien ancrée dans les techniques d'apprentissage du sanskrit, qui aurait pu servir de modèle pour cette démarche. L'on s'y efforce de vérifier activement la justesse des expressions formées à partir de leurs éléments ab ovo, chaque étape justifiée en puisant dans le fond des règles opportunes, toujours se gardant de faire entorse aux aphorismes de Panini. Le noyau de la prakriya, comme de la grammaire elle-même, est la racine d'où tout commence. La notion de Shabda Brahman associée à Bhartahari peut se voir comme la transformation de ce genre de spéculation en cosmologie. De la racine qui combine, comme pour la Mimamsa, les deux aspects sémantiques d'activité et de résultat, émane d'un côté la phrase entière avec sa cohorte de facilitateurs contextuels liés aux verbes par les rections casuelles et caraka, et de l'autre l'univers d'objets signifiés rendu évident par l'expression même et partageant le même processus d'explication, d'explicitation. Comme la phrase émane de la racine, le monde signifié émane du Brahman, passant par les célèbres quatre ou trois étages communs à tous les deux. On a remarqué au passage les nombreux termes techniques de la grammaire indienne formés à partir de la racine kur, faire, fabriquer. Deux observations d'ordre général en découlent. D'abord, que la grammaire elle-même était conçue comme une activité parmi les plus importantes, en ce que son exercice continu était indispensable à ceux qui se voyaient comme les gardiens d'une tradition sans parallèle, grâce à une langue qui ne se conserve qu'en la pratiquant sans cesse, comme un dharma. Et secondo, que la phrase, constituée à partir des termes liés au verbe central par des caraka, des facteurs causaux, était conçue comme une composition unifiée, un mahavakya, dont la cohérence l'a placée au-dessus de ses composants apparents et lui conférait une réalité distincte et sans doute originelle. On n'a pas encore mentionné le sporta, acquis majeur de la tradition grammaticale tardive, mais en quelque sorte cette manière de conceptualiser la langue et son pouvoir de signifier est inhérente aux spéculations relatives à la composition de la phrase. Je voudrais clore cette présentation en me félicitant de l'opportunité qu'elle m'offre de rendre hommage à la mémoire d'un maître admirable, je cite les propos de Louis Renou lui-même à propos de Wackernagel. Louis Renou disparut il y a 50 ans, dont la direction bienveillante a fait énormément progresser mon étude de jeunesse. Son œuvre vaste et perspicace est devenue incontournable pour tous ceux qui s'intéressent aux études védiques ou à la grammaire indienne, tout comme la vaste œuvre de Nagesha reste incontournable pour les érudits indiens eux-mêmes. Pour clore, quel meilleur envoi qu'une ultime citation du maître, adhérer à la pensée indienne, c'est d'abord penser en grammairien.